Voilà, Onde Noire, suite et fin. Et nous allons... Eh bien, c'est encore un roman en langue espagnole. Ah non, pardon,
et non.
Pardon.
Et non, non,
en Amérique du Sud, il y a un pays qui parle le portugais.
Et voilà, donc c'est un roman brésilien de Edir Augusto, ou Augusto, là, franchement, là, je ne sais pas comment on prononce le brésilien. Le roman s'appelle Nid de Vipère. Il est paru aux éditions Asphalt et il est traduit par Diniz Galos. C'est le troisième roman de cet auteur donc, brésilien, Edir Augusto. Le troisième qui est traduit par Diniz Galos. Et donc, le troisième qui est publié aux éditions Asphalt. C'est aussi le troisième qui se déroule dans l'état du Pará. Alors, l'état du Pará, c'est au nord-ouest du Brésil, au bout de l'Amazonie. C'est là où vit l'auteur, et donc, il parle des endroits qu'il connaît. Alors, le premier, ça se passait à Belém, donc c'est la capitale de l'état.
C'était le nom du roman, oui.
Le deuxième se passait dans l'île de Mosquerio, et le roman s'appelait Moscou, parce que c'est comme Moscou en anglais, parce que c'est comme ça qu'appellent les locaux cette île. Et celui-là se passe...
À Nid-Vipère,
en Amazonie, là, en pleine Amazonie, dans une ville qui s'appelle Cazenal ou Cazental. Cazenal, je ne sais pas si les H sont aspirées en portugais. C'est à peu près à 75 km de Belém. Le roman commence de façon assez spectaculaire. En pleine fête votive, pendant le bruyant feu d'artifice et la procession de la Vierge, toute une famille est abattue par un commando de trois hommes dans leur appartement. Cette famille, des années auparavant, avait été spoliée de son bien, une aciérie, donc il y a beaucoup de bois dans l'Amazonie, donc une aciérie. Le père avait été tabassé et la mère violée sous les yeux de toute la famille, dont de leurs deux enfants, Isabelle et Alfredo, qui avaient une dizaine d'années et qui jurèrent à l'époque de se venger. Alors Alfredo, lui, il est devenu Fred et il est parti faire sa vie aux États-Unis et il semble avoir fait la part des choses. Isabelle, elle n'a pas renoncé, elle est devenue Sylvia, une superbe pute que tous les notables du patelin s'arrachent jusqu'au sommet de la pyramide, Vlamir Turvel, la crapule malfaisante du début, qui est devenue entre-temps le gouverneur de l'État. Sylvia, ou Isabella... Elle ne tardera pas à devenir sa maîtresse attitrée. La vengeance va pouvoir avoir lieu. Voilà, ça c'est vraiment le début du roman. Et vont suivre 150 pages, parce que Jean-Marc tout à l'heure parlait de pavé. Là, c'est vraiment un très court roman, 150 pages, d'un roman d'une très très noire, à la fois très punchy, très violent, une écriture nerveuse, des phrases vraiment très courtes, parfois même elliptiques du verbe, comme pour aller à l'essentiel.
Des phrases nominales, Jacques, nominales. Voilà,
presque de la scansion. Des dialogues qui percutent, un roman multivoque, ou alors un roman choral, comme on dit dans Télérama, par exemple. Et plusieurs personnages, donc, vont raconter l'histoire, leur bout d'histoire. Il y a Fred, Pat, qui est sa fiancée américaine. Il y a aussi, donc, Isabella, Sylvia, selon les moments. Mais aussi, il y aura un quidam, Valdomiro, qui est un cinéphile anonyme, arbitre de rugby le week-end, de football, pardon, le week-end. Qui va être mêlé à l'affaire malgré lui. Et il y aura aussi, dans ce qu'il raconte, Turvel, donc Vlamir Turvel, le pourri, qui lui pense qu'on peut acheter tout et tout le monde, flics, journalistes, ministres, femmes, et qui pense que le pouvoir le rend invincible. Mais en fait, ce n'est pas que un roman de vengeance, que un roman sur une vengeance, c'est aussi un roman sur la politique de ce pays, le Brésil, ou tout au moins l'état de Pará, sur la corruption. La corruption était d'ailleurs déjà très présente dans les précédents romans d'Augusto Edir Augusto. Et à la corruption, là, s'ajoutent les trafics divers, de drogue, de bois précieux. On y retrouve, comme dans les deux précédents, d'ailleurs, une intrigue fortement sexuée, si j'ose dire. Les scènes de sexe sont, disons, explicites, mais elles ne sont jamais ni voyeuristes ni complaisantes. En fait, elles servent l'action, le récit. En même temps, là, une des héroïnes principales, c'est une pute. Donc, c'est assez normal qu'il y ait des scènes où elle fait son métier.
Idoine,
voilà. Et ces scènes aussi déterminent très bien les personnages. Car ben, quand tu es nu, tu peux moins te cacher. Dans ce troisième opus, donc, Edir Augusto a vraiment une maîtrise totale de son roman. Je me souviens d'avoir dit de Belém, le premier, qui était vraiment déjà très bien, mais il s'était laissé un petit peu embarquer par son personnage de flic. Là, il maîtrise vraiment totalement le roman de la première à la 150e page. En plus, en fait, c'est vraiment impeccable et il nous dit juste ce qu'il faut. Et il nous impose surtout pas de jugement sur la pertinence, par exemple, de la vengeance. Faut-il se venger ou faire comme le frère qui était plutôt lâche, en fait. Il a abandonné la vengeance, mais finalement, il vit une plus ou moins vraie vie.
Un thème un peu donc comme le livre de Victor Delarbol, d'ailleurs.
Voilà, exactement. Alors, je ne sais pas, ça, c'est un roman qui date quand même de 2004, donc il a dû en écrire sûrement depuis. Et comme ça, vraiment, son écriture s'améliore, on peut penser que les prochains, du moins, vont être encore meilleurs. On est encore, une fois, dans ses romans, loin du Brésil de cartes postales, du Brésil des cariocas, du football.
Et c'est tant mieux. Et du carnaval de Rio.
Voilà, et c'est vraiment tant mieux. Je signale, pour ceux qui ne voudraient pas se lancer directement dans le troisième, que les deux premiers sont réédités en point seuil et en un seul volume. Donc, Belém et Moscou.
Deux romans qui étaient déjà pas très épais, quoi.
Pour l'instant, ces romans, enfin les trois-là, font à peu près entre 120 et 180 pages.
Quoi. Cette réédition des deux volumes prend totalement son sens.
C'est vraiment des shots. Il a envie de le dire et il le raconte très brièvement, mais de façon très, très, très intense.
Bref, comme la vie de certains de ces personnages.
Exactement. Voilà, ils n'ont pas le choix, donc ils vivent à fond et souvent ils meurent aussi, il faut bien le dire.
Ce qui arrive malheureusement souvent.
Au chanteur du groupe qu'on va entendre maintenant. Donc le chanteur s'appelle David Allen. Son groupe, c'est Gong. C'est lui qui l'a créé à la fin des années 60. C'est un groupe mythique, de mélange de prog, de jazz. C'était un excellent groupe. Et cette chanson que j'ai choisi aujourd'hui, ironiquement, s'appelle « You Can't Kill Me ». We'll be right back.
Et voilà, après ces quelques notes de gong, on va retrouver notre chroniqueur de BD préféré, Frédéric Prieux. Frédéric, bonsoir.
Bonsoir Corinne.
Comment allez-vous dans votre Guingamp si lointain? Ah pardon, enfin, non, vous n'êtes pas à Guingamp, je passe à l'équipe de foot tout de suite, moi, c'est fou.
Ah oh ben oui, si vous me lancez là-dessus, on n'est pas sorti de l'auberge.
Bon, alors revenons à la BD, et avant de vous demander de quoi est-ce que vous allez causer, je vais citer, parce qu'après on n'a jamais le temps, donc le blog dont vous occupez, et qu'on peut, dans lequel on peut retrouver des chroniques que vous avez faites, et puis plein d'autres de bonnes idées. Donc, c'est le blog BD Polar. Il faut aller le consulter.
Blogspot,
BD Polar. Il faut aller le consulter régulièrement. Donc, aujourd'hui, on parle de quoi?
Ça tombe bien, c'est les deux dernières chroniques de BD Polar dont je vais vous parler. Donc, il s'agit de deux albums pour ce retour. Alors, deux albums différents dans la forme comme en fond. Il y en a un qui s'appelle Adam Clark, c'est l'autre qui s'appelle Gros Bois. Alors, Adam Clark, ça c'est plutôt Back to the 50s, puisque on se retrouve un futur proche. Mais toi, Back to the 50s, mais futur proche, c'est bizarre, mais où l'Empire soviétique existe toujours et la guerre froide n'a jamais été aussi brûlante. Alors, Adam Clark, c'est un sémillant personnage qui exerce avec brio des talents de chroniqueur mondain dans les colonnes de Puppette, le magazine féminin le plus prisé du marché. Mais Clark, c'est aussi un être secret qui cache des talents bizarroïdes, mais derrière son look de séducteur chevaleresque au costard impeccable et à la mine affable. En fait, là, on le retrouve à une réception, alors tout ça c'est le début de l'album, à une réception qui est donnée dans un hôtel de luxe de Majestic City, où toute le gratin de la ville se presse pour admirer le long star, un gros rubis, le plus gros rubis du monde, dont la vente est destinée à combler le déficit d'un grand musée. Tout ça est bien, bien gentil. Mais en fait, Adam Clark va troquer son costume de journaliste pour celui de monte en l'air et tenter de s'emparer du fabuleux bijou. Donc, un jeu d'enfant, à moins que l'ingénue et sexy Irina ne soit plus que la ravissante idiote qui est destinée à lui servir d'alibi. Donc, vous voyez, c'est assez surprenant que cette aventure, cette histoire d'Adam Clark, c'est un petit peu du James Bond qui
rentre. Oui, ça fait un peu surannée. Ouais, ça fait un peu, ouais.
Oui, et sur fond du chronique, alors ça pouvait être un petit peu risqué l'affaire parce que les deux genres pouvaient ne pas faire bon ménage, mais si, tout à fait, c'est très réussi parce que le scénario il est assez malin parce qu'il mêle deux types de récits que les amateurs du genre connaissent bien, le casse qui est minutieusement organisé, exécuté, et l'espionnage avec tous ses codes, les personnages attendus, les coups fourrés, et sur cette base...
Et la ravissante idiote, je le rappelle.
Et voilà, la ravissante idiote, qui n'est pas que la ravissante idiote, évidemment. Donc, sur cette base, Lapone, lui, dessine, comme il a toujours dessiné, en fait, Antonio Lapone, il a une quarantaine d'années, pas très connu chez nous, c'était un Italien, mais surtout illustrateur, mais en fait, il dessine un trait caractéristique de la ligne claire, et même plus précisément, le style atome dans la ligne claire. Vous voyez un petit peu où on va se situer.
Alors, moi, j'avoue personnellement être très néophyte et ne pas voir le style atome, mais bon.
Voilà, donc le style atome, juste pour citer quelques noms, en fait, c'est Joss Swart, Serge Claire, Vermeulen, Daniel Torres et Yves Chaland.
Merci.
C'est cette famille de dessinateurs.
Merci d'ailleurs, pour moi et nos auditeurs.
Voilà, donc voilà, et puis donc Lapone fait un petit clin d'œil à ça, puisqu'il parle des atomes style cigarettes dès le début de l'album. Mmh. En fait, pour résumer cet album, c'est l'élégance dans la torgnole et la classe dans l'adversité.
C'est une formule. Hein.
Belle formule voilà, de fan chronique.
Ça me plaît beaucoup, je suis très fier de moi là-dessus. Et donc voilà, c'est un album très élégant et il est d'un format très très inhabituel parce qu'il doit faire dans les 35 cm de haut et surtout 25 de large. C'est très très grand format et avec aux ambiances nocturnes vraiment magnifiques. Donc c'est une surprise, je vous cache pas, j'attendais pas cet album de Lapone et Autière quand même, Régis Autière au scénario, il faut peut-être quand même vous citer le scénariste. Tous les deux avaient déjà fait un album qui s'appelait Accords Sensibles, qui était plus jazz et BD, je ne l'ai pas lu, j'ai lu qu'ils avaient fait ça, mais qui ai-je lu ambiance à la Dupuis et Berbérian, qui parle peut-être un peu plus que le style atome à nos auditeurs.
Et
voilà. Mais Adam Clark, vraiment, c'est une découverte et tout dans l'élégance, c'est ça qui me plaît bien. Alors, après ce sommet justement de classe, on va redescendre sur terre avec un album qui s'appelle Gros Bois de Jérémy Le Corvésier, qui est un Breton. Hein, c'est pas pour ça que j'ai choisi, hein, je vous rassure.
J'imagine.
Mais parce que l'album est très bon aux éditions des Enfants Rouges. Alors, je vais vous juste lire le début d'un dialogue, un petit dialogue. Alors, ça dit, alors, moi, je préférerais me mettre une balle dans la tête. Boum, direct. Oh ben non, j'ai trop peur de me louper. Moi, je me jetterais plutôt sous le train, c'est plus sûr. Ouais, mais il n'y a pas de train dans la région. En fait, il n'y a que dalle dans cette région, de toute façon. Alors, vous voyez.
Vous parlez de la Bretagne, là?
Non,
ah,
je
bon,
parle
pardon.
De Grosbois. À Grosbois, la jeunesse locale s'emmerde de ferme. Voilà. Et c'est pas un événement annuel. La fête du jambon qui va faire tourner les têtes. En fait, la bourgade, vue de loin, ça ressemble à n'importe quel autre. Avec son épicier, sa coiffeuse, son maire, ses cultivateurs, ses policiers municipaux, des gens normaux. Ou presque, parce qu'en fait, l'épicier, c'est un grand sensible qui est un adepte du tour à bois à ses heures perdues. Bon, ça encore. Bon, après.
Ça va, c'est pas pervers quand même, hein.
Ça va. Non, mais attends, attention. La coiffeuse et ses employés se font champouineuse topless dans un club privé. Le maire, lui, il aime bien aller déféquer dans les champs. Les cultivateurs sont des...
Ça fait du fumier, hein.
Ça se pose là. Les cultivateurs, eux, ce sont des skinheads férus de mode et spécialisés dans le pavot. Et quant au chef de la police, il préfère s'occuper de ces petits trafics plutôt que d'enquêter sur des morts suspectes qui viendraient lui gâcher la vie. Parce qu'évidemment, il se passe quand même quelque chose, c'est qu'on vient de retrouver un troisième cadavre au fond d'un ravin dans la forêt de Grosbois. Et est-ce que ça va perturber la faune locale? Ce n'est pas sûr. Donc, ce qui est super étonnant, c'est que quand on referme cet album, on se dit qu'on vient de lire un épisode de Twin Peaks. Qu'on vient de voir un épisode. C'est hyper bizarre, que ça soit dans la mise en page comme dans le cadrage, qui sont assez audacieux, on va dire. Et puis, ce qui frappe aussi, c'est que la couverture fait penser, alors là, encore une référence, vous allez me dire, je le fais exprès, au Crime Comics des années 50, où c'était... voilà. On disait que ça, the crime is true, ouais, avec mon accent légendaire. Et en fait, c'est ça, en fait, Grosbois, c'est un fait divers, mais c'est une narration qui est complètement bizarre, parce que ce qui pourrait servir d'accroche, c'est-à-dire l'enquête, c'est pas du tout ça, les trois morts du ravin, on s'en fout assez vite, puisqu'ils sont évacués pour autre chose, qui est le récit lui-même qui est mystérieux, par des conversations complètement bizarroïdes entre les protagonistes, une qui est complètement hallucinante entre les skinheads, alors qu'ils sont en train de ramasser leurs fleurs, qui on suppose être du pavot, ils discutent sur les bienfaits et les inconvénients du vêtement en lin.
C'est mignon, oui, effectivement.
Ça serait trop homo, pas assez, enfin bon, n'importe quoi, et c'est très, très, c'est très drôle.
Un peu décalé.
Et tout le monde est à moitié fou là-dedans, dans ce village, et le dessin, en plus de Jérémy et Corvézier, il est hyper précis, inventif, suggestif. Il y a un exemple, là, je ne sais pas si vous êtes parlant oralement, mais à un moment, il y a une vue aérienne schématisée. Alors, on soit c'est un plan géographique, c'est ce qu'on se dit, mais quand on regarde un peu mieux, ça pourrait être une vue microscopique de cellules et de vaisseaux sanguins. Ça va peut-être vous parler, ça,
oui, cher ami. Oui, oui. Parle effectivement.
Très étonnant, et des couleurs qui sont absolument pétaradantes pour les cheveux, par exemple. Bon, on n'est pas loin du mauvais goût, mais on s'en approche avec délice. Ça m'a bien plu aussi.
Et c'est un one-shot ou c'est censé être une série?
C'est un one-shot, les deux, ce sont des one-shots. Petit format, celui-ci, format comics, la moitié de l'autre, c'est ça qui est drôle. Et entre autres, et c'est un petit peu de la même famille que Océania Boulevard, je ne sais plus si vous en avez parlé sur ces ondes, mais enfin, un album qui suscite de l'inquiétude, mais sereinement, voilà.
En gros, on a un album élégant. Et
exactement.
Un qui pourrait être de très mauvais goût, mais qui a l'élégance de son mauvais goût.
Ah ben voilà, voilà, la synthèse est faite, c'est tout à fait ça.
Je fais la synthèse tout simplement parce qu'il nous reste juste 10 secondes, Frédéric, donc on va être obligé de terminer cette chronique. De toute façon, on retrouve les références de ces deux BD aussi bien sur votre blog, donc je le dis bien, Blogspot BD Polar, que sur le site de La Noiraude et Ondes Noires.
Ondesnoires.com.
Voilà, Frédéric, merci beaucoup.
Merci à vous les amis.
Au revoir et à très vite.
Au revoir.
Et puis on va dire au revoir à nos auditeurs, voilà, avec un bon bouquin, chacun dans son coin, et à la prochaine.
Au revoir.